Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
6h avant minuit, mercredi 22 octobre 2025, vous écoutez l'émission d'information locale de Syllab. Merci à vous. Parlons un peu du beau et du positif, ça nous changera. Je ne sais pas si vous vous êtes baladé du côté du couvent des Jacobins à Rennes dernièrement.
Non, pas du tout.
Non. Eh bien super, je peux vous faire un petit conseil alors. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous pourrez y voir une toute nouvelle fresque qui orne le mur de la rue d'échange, désormais habitué des graves géants à la bombe. Cette fois, l'association MUR a confié les 50 mètres de longueur à un duo d'artistes, Jana et JS. En réponse au congrès médical des journées nationales de la Société française de médecine périnatale, qui se sont tenues au couvent des Jacobins le mois dernier, le graffeur et la graffeuse ont imaginé une création sur le thème de l'enfance. Des bambins endormis, jouant ou rêvassant devant un ciel bleu accompagnent désormais les passants et passantes. Une bonne raison pour une petite balade automnale. Tout de suite, le journal d'Estelle.
Trump et Poutine vont devoir trouver une autre date dans leur agenda. Trump ne veut pas d'un sommet pour rien, a-t-il déclaré hier. En repoussant la rencontre envisagée à Budapest en Hongrie, il bloque toute négociation de paix pour l'Ukraine. Alors même qu'il pousse Volodymyr Zelensky à céder le Donbass à Moscou. Cette annonce intervient dans un échange après un échange téléphonique jugé productif entre le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. La semaine dernière, Trump avait déjà échangé plus de 2 heures avec Vladimir Poutine. Les dirigeants et dirigeantes européens doivent se rencontrer demain à Bruxelles. Au programme, la mise en place d'un soutien financier pérenne pour l'Ukraine, mais aussi l'affirmation commune de leur refus de voir bouger les frontières du pays. Le 22 octobre 2022, Giorgia Meloni, femme politique, devient la première chef du gouvernement issue d'un parti d'extrême droite à diriger un pays d'Europe de l'Ouest. 3 ans plus tard, quel bilan pour Giorgia Meloni ? À l'international, la femme politique affiche désormais un visage modéré. Sa gestion budgétaire rigoureuse et son rapprochement avec l'Union européenne l'ont fait gagner en crédibilité. En interne, l'économie italienne reste tout de même fragile. Peu de réformes structurelles, la croissance reste faible, précarité de l'emploi, une des plus lourdes dettes et chômage des jeunes élevé. Communicante habile et leader solide, Giorgia Meloni garde une réputation de tribun populiste, adepte de la rhétorique agressive et inspirée par Donald Trump. Réforme des retraites, divergence de vocabulaire à la tête de l'État. Le président parle d'un décalage de la réforme, son premier ministre, lui, évoque une suspension. Pour Jean-Luc Mélenchon, la réforme des retraites à 64 ans n'est ni abrogée ni suspendue, elle est décalée. Marine Le Pen, elle, parle d'un jeu cynique du président, d'après Le Parisien. Quant à la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, interrogée par Libération, la réforme des retraites de 2023 est bel et bien suspendue, même si le président de la République peut le nier. Face à la confusion, Sébastien Lecornu a tenté une clarification devant l'Assemblée nationale. La suspension sera bien intégrée au budget de la Sécurité sociale via une lettre rectificative. Elle sera examinée jeudi en Conseil des ministres comme le demandaient la gauche et le RN. La planète est polluée, mais l'environnement médiatique aussi. C'est ce que révèlent les ONG Cota Climat, Data for Good et Science Feedback dans un rapport sorti aujourd'hui. Créé il y a 3 ans, Cota Climat a une mission. Répertorier les fausses nouvelles climatiques sur les 18 médias principaux en France.
Les chiffres, 529 cas de désinformation climatique dans les principales chaînes de télévision et radio entre janvier et août, plus de 500 infox sur le climat en 8 mois donc, ça fait à peu près 15 infox par semaine sur vos écrans. Alors rassurez-vous, la situation n'est pas la même dans tous les médias. D'après les ONG, les principaux coupables sont les chaînes d'information en continu et pour aller plus loin, les chaînes privées. Celle-ci serait en effet 6 fois plus exposée au narratif de désinformation climatique que l'audiovisuel public.
Alors quel podium pour cette coupe des fausses informations climatiques ?
Eh bien en 3ème position, RMC et Europe 1, avec en moyenne 0,7 infox par heure. Vient ensuite Sud Radio avec 1,5 cas de désinformation climatique par heure. Enfin, c'est sans grande surprise que CNews repart avec l'or. La chaîne du milliardaire Vincent Bolloré remporte donc la première place avec une moyenne d'une infox climatique par heure. Pour effectuer le rapport, les ONG se sont appuyées sur deux facteurs. D'abord, le nombre de cas de désinformation sur le climat, par heure d'émissions dédiées au climat. Mais le second facteur, c'est de savoir qui a prononcé la fausse information. Dans le cas de CNews, plus de 50% des fausses infos climatiques viennent de journalistes ou chroniqueurs de la chaîne, un pourcentage énorme qui dépasse celui de Sud Radio. Plus généralement, ce facteur est un moyen de contraster clairement l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Dans le public, la désinformation est à 92% du fait des invités. Dans le privé, la désinformation vient à 46% des journalistes. Pour les ONG, le bilan est clair. Les chaînes généralistes ou publiques constituent le rempart le plus actif contre la désinformation climatique. Par exemple, entre janvier et août, CNews compte 160 infox climatiques et 88 infox pour Sud Radio. En face, TF1 et France Culture sont à une chacun.
Mais si ça ne concerne que quelques chaînes, pourquoi c'est alarmant l'AFKN ?
Eh bien d'abord parce que le nombre de fausses informations climatiques explose. En avril dernier, nous étions à 128 cas parmi les premiers médias français. En août, nous sommes à 529 cas. Les données montrent que la désinformation apparaît souvent lors de moments politiques clés. Par exemple, lors du vote sur les zones à faible émission au Parlement ou durant la canicule de cet été. En parallèle, des chercheuses et chercheurs du Center for Countering Digital Hate alertent sur une nouvelle forme de déni climatique. En fait, on ne cherche plus à contredire frontalement les scientifiques, mais plutôt à embrouiller et épuiser l'opinion publique. Par exemple, on transforme des discours du type « le réchauffement climatique n'existe pas » en « les énergies renouvelables sont extrêmement chères et inefficaces ». Autre technique toute simple, on exclut les scientifiques des débats. Ces chiffres et ces méthodes sont donc alarmants, surtout quand on sait qu'une chaîne comme CNews touche en moyenne 40 millions de personnes par mois.
Il y a des solutions pour lutter contre la mésinformation climatique dans les médias ?
Des solutions, il en existe, Estelle et Cota Climat en citent plusieurs dans son rapport. La clé, c'est laisser plus de place aux faits, au fact-checking et aux scientifiques dans l'espace médiatique. Il faut former les journalistes à la vérification des informations, même lors de directs. Cota Climat recommande également de toujours avoir une experte ou un expert sur les plateaux lors de débats. L'ONG demande aussi à ce que les enjeux environnementaux soient mieux étudiés par les journalistes et plus visibles. Enfin, il faudrait se méfier de l'infotainment, un croisement entre information et entertainment. Cette pratique de plus en plus répandue confond faits et opinions, certains médias préférant le divertissement aux informations factuelles. Pour vous, pour les auditeurs et auditrices, Cota Climat souligne 4 points. Être exigeant ou exigeante concernant les sources de vos médias préférés, n'hésitez pas à demander des sources ou alerter un média qui erronne une information. 2. Si une information vous touche, vérifiez-la. 3. Diversifiez vos sources. Enfin 4. Soutenez la presse indépendante.
Merci l'AFKN. La vérification des informations est évidemment un combat plus qu'actuel, notamment avec l'explosion de l'IA dans nos vies. Si d'autres solutions pour combattre les fake news vous intéressent, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Cota Climat. Vous y retrouverez des conseils législatifs, des informations sur l'ARCOM ou encore des exemples d'infox que vous avez pu voir passer. Attention, ça va souffler. Et non, le vent, ce n'est pas que sur CNews. La tempête Benjamin s'annonce... La tempête Benjamin... Il n'y a pas de souci. Alors, la tempête Benjamin, elle s'annonce violente. Attendue dès ce mercredi soir, elle devrait frapper la France avec une intensité inhabituelle, notamment sur l'ouest du pays. Une dépression venue des îles Britanniques va se creuser dans la nuit. On attend de puissantes rafales jusqu'à 130 km/h sur le littoral atlantique, la Manche, le Nord et la Corse. Météo France place 18 départements en vigilance orange à partir de demain et la Corrèze passe en alerte dès ce soir. À l'intérieur des terres, des rafales de 90 à 110 km/h sont aussi attendues dans les zones en vigilance jaune. L'épisode pourrait s'aggraver dans les prochaines heures selon l'évolution des conditions. Urgences nocturnes fermées, le mauvais diagnostic de la clinique de Cesson-Sévigné. Depuis juillet, les urgences de la clinique de Cesson-Sévigné sont fermées la nuit. Initialement prévue pour durer jusqu'en octobre, la mesure est finalement prolongée jusqu'à fin 2025. La raison ? L'effectif actuel de ces médecins urgentistes, selon a communiqué les hôpitaux privés de Rennes. Concrètement, le service d'urgence n'accueille plus de public entre 22h et 8h. Il reste néanmoins ouvert en journée. Si une personne se déplace directement aux urgences, une infirmière d'accueil reste présente sur place pour réorienter les patients, mais il est vivement recommandé d'appeler le 15, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le jeudi 16 octobre, un pique-nique revendicatif s'est tenu sur le parvis de l'hôtel de ville de Rennes. À l'appel de l'intersyndicale des agents de Rennes Métropole, du Centre communal d'action sociale et la Caisse des écoles, plusieurs personnes se sont réunies pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. En cause, la baisse des financements alloués aux services publics locaux, qui entraîne des difficultés de recrutement, un gel des postes, une précarisation de certains agents et une perte généralisée du pouvoir d'achat.
Entre deux tonnelles, une enceinte et une playlist qui ambiance, je suis allée à la rencontre de Magali Redoutée, représentante Sud-CT à la ville de Rennes et aide-soignante de métier, Paul, agent d'animation et délégué syndical Sud-Solidarité, ainsi qu'Emmanuel, bibliothécaire rennaise, venu soutenir ses collègues.
Pourquoi avoir choisi ce format de pique-nique revendicatif ?
J'ai pu partager un petit pique-nique avec les collègues, les riverains et les gens de passage ici hein, pour informer du coup sur les difficultés dans le service public, les difficultés de conditions de travail et qui affectent directement les conditions d'accueil des usagers, mais dans tous les services publics. Voilà.
Et du coup, t'as mangé quoi ce midi avec les collègues ?
Alors, ce midi, j'ai mangé un petit peu de brie et du pain. J'ai pas pris le gâteau au citron parce que je n'apprécie pas trop ça. Et je termine avec un café. On a eu droit du Nutella vegan de récupération, attention. Et donc voilà.
Alors ce rassemblement, c'est parce qu'on a fait des assemblées générales avec les agents de notre collectivité rennaise, c'est-à-dire ceux de la ville de Rennes Métropole, du CCS et de la Caisse des écoles. Et donc on est en intersyndicale, on leur a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ici à Rennes. Et donc eux, ils ont proposé qu'on fasse des actions. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est un pique-nique revendicatif devant la mairie, puisque c'est Madame Appéré, notre employeur. Donc c'est un symbole pour nous.
Est-ce que vous pensez que ce pique-nique revendicatif va plus toucher le public qu'une manifestation ?
C'est une autre manière, je pense, de toucher le public. C'est moins impliquant. Une autre occasion de voir qu'il se passe quelque chose et que certaines personnes sont là pour défendre le service public, juste en passant comme ça.
Il y aura d'autres mouvements à venir dans les semaines ?
On ne sait pas si elle va tenir, on ne sait pas qui va y rester. Enfin voilà, on attend un peu les objectifs, les directives du national et puis après on verra. En tout cas, s'il y a encore des mouvements, c'est sûr que nous, on sera présents sur Rennes et que de toute façon, comme on vient de le chanter, on ne lâchera pas.
On lâche rien ! On lâche rien !
On lâche rien et merci à moi-même pour ce reportage. Vous aimez l'humour cynique avec une bonne dose d'autodérision, les blagues pleines de métaphores automobiles ou juste vous n'avez rien prévu de votre soirée, prenez votre place pour aller voir l'Atout Charme Comedy Club. Ce soir, Luciole Defeu et Margot Demeris partagent la scène 30 minutes chacune. Premier comédie club breton 100% féminin, l'Atout Charme propose des plateaux de stand-up dans différents lieux culturels de Rennes Métropole. Au programme de ce soir, deux humoristes en feu, Luciole Defeu et Margot Demeris. Rendez-vous à l'usine à Rennes de 20h à 21h30 pour le prix de 10 euros.
Merci à toi-même Estelle pour ce journal et on te retrouve mercredi prochain pour un nouveau journal. À mercredi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Interview sous le signe du jazz et du freestyle pour Roman ce soir.
Aujourd'hui, on retrouve Léa Bredotti, qui a les cheveux redressés par une pince et des lunettes sur le nez. Elle est coordinatrice à la MJC Brechini et programmatrice du festival Jazz à l'Ouest. Et on retrouve aussi Margot Buller, qui a les cheveux détachés et des super boucles d'oreilles orange. Elle est stagiaire en action culturelle et production. Elle vient de nous parler du festival Jazz à l'Ouest, qui débutera ce mardi 4 novembre pour une 35e édition. Une 35e édition, ça fait beaucoup d'années ça. Comment direz-vous que le festival a évolué ces dernières années ?
Eh ben, en bien, il est toujours là, voilà, 35 ans après, c'est quand même une belle histoire pour un festival, et ça montre que le jazz, en fait, est une musique vraiment vivante, qui continue de se déployer, notamment à Rennes, on pourra en reparler après.
Et est-ce que derrière l'identité de ce festival, il y a un ou des messages à faire passer ?
Ça fait partie aussi des missions de la MJC de Bricchini, donc qui porte le festival depuis 35 ans. C'est de promouvoir et d'accompagner les projets artistiques de la scène locale, qui est vraiment foisonnante et avec des propositions de qualité, donc que vous pourrez retrouver tout au long du festival. Et c'est aussi de se saisir des enjeux de la scène musicale actuelle, qui traverse aussi particulièrement le jazz, notamment sur la question de la visibilisation des femmes, des artistes femmes, puisque il y a des études, notamment une étude portée par l'association Jazz et Croisés, qui vraiment met en évidence que le nombre de femmes présentes et représentées sur les scènes est encore assez minime, et que pour autant il y a quand même dans les pratiques amateurs et dans la formation des musiciennes qui sont vraiment présentes. C'est juste que il faut aussi leur donner des espaces pour pouvoir s'exprimer et se professionnaliser surtout. Voilà.
Est-ce que vous avez quelques noms de ces artistes féminines à nous donner ?
Eh bien oui, on vous recommande chaudement de venir découvrir ces artistes, donc notamment à la MJC de Bricchini. On est très contents d'accueillir une pianiste, compositrice et chef de big band, donc avec une casquette vraiment particulière dans le milieu du jazz pour une femme. C'est quand même pas si souvent. Elle nous vient du Danemark, elle s'appelle Catherine Winfeld, et elle a une écriture donc vraiment pour des grands ensembles de jazz, mais qu'elle a retravaillé là sur un format un petit peu plus intimiste. Donc elle va nous présenter un set en trio, et surtout elle va aussi l'idée, donc on va la voir en tant que chef de big band, puisqu'elle va accompagner le West Jazz Orchestra, qui est un big band qui est accueilli à la MJC de Bricchini depuis 5 ans, donc big band résident, qui est composé d'amateurs et de professionnels. Donc ils vont partager la scène avec cet artiste pour la soirée du 8 novembre à la MJC de Bricchini.
Et au total, cette année, on retrouve combien d'artistes, combien de rendez-vous musicaux ? Ouais.
Alors, le festival dure 3 semaines. Du coup, pendant ces 3 semaines, il y a la possibilité de découvrir près de 200 artistes dans une cinquantaine de formations différentes. Et au total, oui, on a une 60aine de rendez-vous, donc qui sont à la fois des concerts, mais aussi d'autres formats, pour pouvoir aborder le jazz de plein de manières différentes.
Et j'ai lu dans votre édito que cette année, la programmation nous emmène dans un voyage où le récit et la transmission se conjuguent à la poésie, à l'improvisation et même parfois à la transe. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Eh ben, c'est vraiment la pluralité aussi de la programmation du festival qui permet de naviguer à la fois dans des espaces d'histoire, de transmission, d'héritage, à travers par exemple des concerts swing. On va notamment retrouver Sassy Swingers à la MJC de Guipry, mais aussi des échappées beaucoup plus contemporaines, avec par exemple la contrebassiste Hélène Saint-Aimé qui viendra présenter un répertoire qui est vraiment puisé dans ses racines antillaises et africaines, mais qu'elle revisite vraiment de manière très contemporaine. Donc c'est encore une fois montrer que le jazz, il a toute son histoire, mais il est aussi vraiment très actuel, et qu'on peut aussi danser, on peut se laisser porter. Il y a vraiment plein de façons de le vivre. Voilà.
Et parmi ces artistes, il y a des incontournables. J'ai cru comprendre qu'il y avait le fils d'un célèbre guitariste.
Ouais, tout à fait. Donc, le fils du guitariste brésilien Baden Powell, donc qui a vraiment qui a été largement diffusé depuis les années 60, qui est vraiment reconnu dans le monde entier et du coup qui a transmis aussi, donc on est encore sur des questions de transmission, à son fils une partie de son répertoire, mais que son fils a su aussi vraiment se réapproprier pour créer sa propre couleur. Donc il viendra jouer, donc c'est Marcel Powell dont on parle, il viendra jouer à l'Acoustique ABD, donc c'est une petite salle d'une centaine de places, donc à une trentaine de kilomètres de Rennes, mais voilà, qui vraiment aussi un petit cocon pour venir écouter ce guitariste en guitare acoustique en solo pour un dimanche après-midi. Je pense que c'est vraiment le moment parfait pour ça.
Et donc le festival ouvre le 4 novembre, bien ça, avec l'artiste Yeko. Pourquoi ce choix ?
Alors c'est un groupe, Yeko, c'est vraiment un projet de groupe qui est porté par le guitariste rennais Johan Leferrand depuis quelques années. Ça fait quelques temps, enfin assez récemment, qu'il travaille avec une nouvelle chanteuse qui s'appelle Socha, qu'on a accueillie d'ailleurs ces derniers jours à la MJC de Bréquigny en résidence. Et ce choix, c'est vraiment l'idée d'ouvrir sur un festival justement qui est un concert qui soit le reflet de cette pluralité et de la diversité qu'on met en avant dans la programmation du festival, avec un moment festif, parce que c'est vraiment un bal où vous allez pouvoir venir danser avec le groupe, une super belle énergie qui met aussi en avant les cultures du Mali notamment. Donc pour venir aussi à la racine du jazz, pour un bel hommage à ces musiques. Et un moment vraiment fédérateur, ouvert à tout le monde et gratuit.
Un moment qui va nous faire voyager. Mais quelle place prend la scène locale rennaise et bretonne dans la programmation de cette édition ?
Justement, ça fait vraiment aussi partie des enjeux, comme on le disait tout à l'heure. Du coup, on est quand même à trois quarts, les trois quarts des artistes programmés sont issus de la scène locale, donc de Rennes, mais aussi de la région, parce qu'il y a vraiment une scène très foisonnante de musiciens qui se professionnalisent, qui montent des projets de qualité, et du coup, il y a vraiment plein d'occasions de venir les découvrir, donc que ce soit sur les apéro-concerts à la MJC de Bréquigny, donc sur des propositions gratuites, mais aussi dans les bars rennais, il y a des jams aussi qui permettent de voir un peu justement toute cette effervescence musicale rennaise. Il y a plein d'occasions de découvrir les artistes de la région.
Ok, si on écoutait quelques extraits d'artistes. C'était un extrait de Hélène Saint-Aimé, qui est contrebassiste et compositrice. Qu'est-ce qu'elle va proposer pour le festival ?
Un concert en trio avec un super percussionniste qui s'appelle Sonny Troupé, qui a beaucoup fait aussi sur la scène caribéenne, et avec un pianiste qui s'appelle Xavier Belin, qui est vraiment un pianiste là qui émerge un petit peu aussi, qu'on voit de plus en plus dans les projets et qui est à suivre, donc pour un trio qui se produira à la MJC de Bréquigny, donc j'ai perdu la date il y en a beaucoup, j'ai un petit trou, le 14 novembre, et en première partie on va accueillir aussi un projet, un trio qui s'appelle Séléné, donc petit clin d'œil, qui va explorer un jazz vraiment assez moderne, très contemporain, avec des sonorités rock psychédéliques, avec trois musiciens et musiciennes qui nous viennent de La Réunion. Ils sont en tournée dans le coin et on a hâte de les accueillir.
Et le prochain extrait, La Voix Profonde de Célia Camini. I did as I could. As I could. Comment décrirez-vous l'univers musical de Célia Kameni à quelqu'un qui ne la connaît pas ?
Eh ben, c'est une artiste vraiment avec une puissance vocale et une subtilité vraiment dans ce qu'elle amène dans sa voix qui est vraiment à voir en live en fait. Son premier EP. Elle a beaucoup beaucoup évolué dans la scène jazz, elle a été invitée dans de nombreux projets et donc là elle va présenter son projet qu'elle porte elle-même avec du coup d'autres musiciens sur scène, notamment des cordes, et on peut le sentir, mais vraiment la voir en live, c'est vraiment prendre la mesure de la qualité vocale et de l'émotion qu'elle sait transcrire. Voilà, donc à ne pas manquer. Ça navigue entre la pop, le soul, l'indie, indie pop on va dire, et c'est à ne pas manquer.
On retient la date. Et dans cette année, dans les étoiles montantes du jazz, on retrouve aussi Braxton Cook et son titre Zodiac. Pouvez-vous nous dire sur cet artiste ?
Eh ben, c'est un artiste, pareil, il ne faut pas le manquer, il ne tourne pas beaucoup encore en France. On est content de l'accueillir pour la soirée de clôture à la MJC de Bricchini, qui est coproduite avec Doin It, donc qui est aussi un festival que je recommande chaudement, qui a lieu tous les ans en mars et qui mêle jazz et hip-hop. Donc la soirée du 22 sera l'occasion de se plonger vraiment dans cet univers avec des teintes soul, hip-hop, et Braxton Cook, du coup, représente aussi vraiment cette nouvelle scène avec un jeu au saxophone il a vraiment une grande maîtrise de son instrument, il peut faire plein de choses et il s'inspire, du coup il va puiser dans des racines soul, hip-hop pour créer sa musique. Il prend aussi la voix, il chante pendant le concert avec aussi une voix vraiment groove, soul. Un beau concert en perspective avec en première partie le trio René Namas qu'on avait accueilli il y a 3 ans, mais là voilà, qui a vraiment fait ses armes et qui a bien développé son son notamment. Ils ont beaucoup travaillé sur leur son et ils vont sortir prochainement un album, donc ça sera l'occasion de les retrouver. On est très contents de cette soirée et on finira avec un DJ set pour danser. Voilà.
Et nous on finit avec un dernier extrait sonore, Augusta de Jaron Marsal. Comment décrirez-vous l'énergie et le style de Jaron Marsal sur scène ?
Eh ben voilà, on le sent là, on dodeline de la tête en écoutant, ça groove quoi. Voilà, donc c'est un artiste à découvrir au Diapason le 5 novembre. Il est membre aussi des Black Pumas, peut-être que ça parlera à certains auditeurs. Et là, il vient présenter son projet, il vient tout juste de sortir un album, donc ça sera l'occasion de le découvrir en live à ce moment-là, pour une date gratuite pour les étudiants. Voilà, d'ailleurs.
Merci de le préciser.
Et j'ai une dernière question, peut-être pour toi, Margot. Selon toi, quels sont les grands temps forts à ne pas manquer cette année ?
Alors, déjà, la soirée de clôture, mais Léa vient d'en parler, mais ça me paraît être une soirée à suivre pour venir danser, parce que je pense que le jazz souffre encore trop d'une réputation de musique lente à écouter assis. Et dans un environnement plus traditionnellement, je me répète. Mais donc cette soirée de clôture, elle me paraît être tout à fait idéale. Et aussi, il y a une soirée solidaire organisée par le Secours Populaire 35 à l'occasion de ses 80 ans à la salle de la Cité. J'essaie de retrouver la date moi aussi, je suis perdue dans la programmation.
Le 13 novembre.
C'est une soirée qui va accueillir l'organiste Emmanuel Bex, qui est un organiste français de renom et très connu sur la scène jazz, avec en première partie le groupe Obside, porté par la guitariste rennaise Priscilla Popiolek. Et donc je pense que ça va aussi être une soirée qui vaut le coup, dont tous les fonds seront reversés à l'association de secours populaire. Et tous les artistes jouent d'ailleurs gratuitement, enfin reversent leur cachet, je ne sais pas comment on dit.
Bénévolement,
merci bénévolement. Beaucoup. Donc voilà, pour moi, c'est les grandes soirées à ne pas manquer. Mais il y a aussi... Il n'y a pas que des concerts et pas que des soirées. Il y a aussi des événements pour la famille, des ateliers, notamment portés par la bibliothèque Cloto Brechini, un ciné-concert à la Paillette ou encore la journée à l'Ouest le 16 novembre à la MJC Brechini pour toute la famille gratuite. Voilà, donc pas que des concerts et pas que des soirées.
Alors, qu'est-ce que vous attendez pour venir au Jazz à l'Ouest? Je vous rappelle les dates, c'est du 4 au 22 novembre à Rennes et ses alentours. Il y a des concerts gratuits, profitez-en, et aussi des concerts payants. N'hésitez pas à aller sur la billetterie du site du festival. Merci Léa et Margot pour votre présence.
Merci.
Avant minuit.
On est mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Jeanne, tu reviens avec un film d'action à gros budget. Tu vas nous parler d'Une bataille après l'autre, le film de Paul Thomas Anderson.
Magnifique accent. Autour de la table, si je vous demande, est-ce qu'il est raisonnable de faire partie d'un groupe politique aux actions violentes dirigées contre le gouvernement? Est-ce que c'est vraiment régional? Non, pas du tout. Mais raisonnable, est-ce que c'est raisonnable passer un âge? Bon, la question, elle est évidemment abusée, mais c'est l'une des questions soulevées avec humour dans le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. C'est une adaptation du livre Vinland. Et moi, je comprends ça au générique de fin. Et en fait, ça me soulage. Même si j'ai passé un moment incroyable devant ce film, incroyable, bah, il m'a aussi mis hyper mal à l'aise. Et le fait de savoir que ce concept du film à 35 ans, bah, en fait, ça m'a détendue. Moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai eu la chance ce jour-là d'être bien accompagnée par un connaisseur et il m'a tout raconté. Vinland, c'est une satire politique et son auteur, Thomas Pynchon, attention les accents, est connu pour brosser des personnages fantasques et truculents et le film y regorge de ces personnages. Sean Penn joue le rôle d'un militaire raciste et robotique, prêt à tout pour plaire à sa hiérarchie. Par ailleurs, il est complètement amoureux d'une héroïne du film, une militante afro-américaine, Perfida Beverly Hills, allez les accents, interprétée par l'actrice Teyana Taylor. C'est un film d'action donc, qui pousse les potards hyper loin de manière générale. Visuellement, le réalisateur il nous propose des plans, comment vous expliquer ça? Ben, hyper exagérés, hein, à base de fusils mitrailleurs calés sur le ventre rond d'une femme enceinte, pleine d'entrain à vider des chargeurs. Et pourtant, c'est pas là où j'étais mal à l'aise. Là, le personnage, en fait, c'est une femme émancipée qui parvient à associer grossesse et lutte armée. En fait, moralement, c'est n'importe quoi, mais c'est badass et assez cool à voir dans un film, évidemment. Une bataille après l'autre, c'est un film d'action avec beaucoup de scènes comiques, mais c'est aussi un film violent. Avec des thèmes en nappe de fond, comme les violences sexuelles ou le racisme, ces sujets sont d'autant plus violents à recevoir qu'ils s'inscrivent dans une actualité quotidienne. Pour servir cette satire, le réalisateur tourne des scènes avec des dialogues hyper gênants. Il va chercher assez loin des termes racistes, un peu, violents, voilà. Et les situations de fétichisation, je vais y arriver.
Bien joué.
Merci, des femmes noires et latinos. Et ben moi, petite chose woke, en fait, ça me soulage à la fin de savoir que ces scènes, elles ont été tirées d'un livre qui date de 1990. Vous savez, ce fameux « bon, c'était une autre époque », en fait, ça marche sur moi. Et puis là, le réalisateur, il se sert de cette gêne pour pointer le ridicule des racistes. Et ça aussi, ça marche sur moi. C'est un film audacieux et pas seulement parce qu'il joue avec le politiquement incorrect, mais aussi et surtout parce qu'il pointe les violences étatiques, malheureusement bien d'actualité.
God damn it! Vive la révolution!
Une bataille après l'autre, le dernier film de Paul Thomas Anderson est encore au cinéma cette semaine. D'après toi, Jeanne, si on a tout compris, il vaut le détour. Merci.
Allez le voir.
Reste avec nous. Est-ce que tu peux regarder s'il y a un message sur le répondeur, s'il te plaît ?
Oui, carrément, c'est ma première fois.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Alors ?
Bah, y a rien.
Oh non, c'est pas vrai. T'es sûre que t'as bien regardé ?
Bah ouais, ouais.
C'est pas vrai, mais laissez-nous un message, on vous redonne le numéro. 02 30 96 25 35. Dites-nous ce que vous avez pensé de notre émission. Si vous êtes allé voir le film que vous a conseillé Jeanne, dites-nous ce que vous en avez pensé.
Oui, venez, on débat.
Donnez-nous vos coups de cœur, vos coups de gueule, tout ce que vous voulez. On diffusera votre message à la fin de cette émission. Merci Jeanne pour la technique, parce que pendant la majeure partie de l'émission, tu étais de l'autre côté du studio, donc merci. Et merci Timothée pour avoir assuré la fin d'émission. On se retrouve demain dans 6h avant minuit. Salut.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.